Une des choses que j'ai retenues de ce matin, c'était la question de Pierre. Est-ce que ton histoire est vraie? Est-ce que tout ce qu'on entend, est-ce que l'histoire est vraie? Voilà, donc c'est la suite. On va répondre à la question au fur et à mesure du temps qui passe. C'est la suite, alors désolé pour ceux qui n'étaient pas là les deux fois précédentes. Ça marche très mal le micro. Sur le Saint-Esprit et surtout sur les dons. On avait commencé il y a quelque temps disant que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit se révélait au travers de Dieu et exclusivement. On verra plus tard que dans l'Église, le Saint-Esprit se révèle à travers des dons qu'il donne à l'Église. Et aujourd'hui, on va parler des dons qui ont été faits aux hommes dans la période intertestamentaire par Jésus. Et je vous avais fait en introduction la fois dernière la liste de 7 dons qui ont été faits aux hommes, et on va voir jusqu'où on arrive aujourd'hui. Et donc je partais sur Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les dons dans ce cas et dans ceux que je vais citer sont les dons d'oma et non pas charisma. Ce sont donc des présents, des cadeaux qui ont été faits aux hommes. Dans la période intertestamentaire, on parle du royaume de Dieu comme étant proche des hommes, non pas comme étant dans les hommes. Le royaume de Dieu s'est approché de vous. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Ça change ensuite, puisque le royaume entre dans la personne après la réception du Saint-Esprit. Donc c'est bien cette période-là où le royaume des cieux est proche. Alors vous me direz, mais ça ne me concerne plus puisque moi je suis dans l'autre partie. Alors je pense qu'il y a des saisons, il y a des moments dans nos vies où nous vivons l'Esprit de Dieu, et peut-être ça correspond à une progression. Lorsque le Seigneur nous attire, l'Esprit de Dieu agit de façon extérieure au travers de la volonté de Dieu dans nos vies. Ensuite, il y a une période où le royaume et l'Esprit de Dieu s'approchent de nous. Et ensuite, une autre période où il fait sa demeure en nous. Donc je crois que ces trois périodes dont nous parle la parole de Dieu peuvent aussi représenter trois périodes dans la vie d'un homme ou d'une femme. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est un verset que l'on connaît bien. Je vous donnerai du repos. N'est-ce pas? Si on revient un peu avant cela, Jésus a dit quelque chose de terrible. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, verset 21, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Ce sont des paroles extrêmement dures. Extrêmement dures. Le repos pour l'homme vient après la repentance. Il n'y a pas de repos pour l'homme s'il n'y a pas de repentance. Et ce n'est pas par hasard que le texte est fait comme cela. Ce n'est pas par hasard que Jésus interpelle sur la repentance auparavant. On peut chercher les miracles. On peut chercher à aller dans des endroits où l'Esprit de Dieu agit de façon puissante et où il y a beaucoup de miracles. Et on peut sortir de ces endroits sans avoir le repos. On ne peut pas faire l'économie de la repentance. On peut aller dans une église toute sa vie et ne pas trouver le repos. Et la simple cause peut être le fait qu'on n'ait pas voulu passer par une repentance complète et sincère. Et Dieu aura pu faire de grandes choses, et vous aurez pu voir de grandes choses, et peut-être même qu'il aura agi dans votre vie. Mais le repos ne sera pas présent. Le repos, c'est pas d'être sans arrêt en train de dormir. Le repos, c'est de pouvoir passer au travers des épreuves de la vie. C'est de pouvoir faire face aux situations difficiles sans devoir en subir les conséquences à l'intérieur, sans devoir être affligé en permanence. C'est ça, le repos. Alors, Jésus pourra faire des miracles. Jésus pourra faire de grandes choses. Mais si il n'y a pas la repentance qui suit, alors il n'y a pas de repos. Et s'il n'y a pas de repos, il n'y a pas de témoignage. Et s'il n'y a pas de témoignage, il n'y a pas de fruit. Voilà, une des clés de l'évangélisation est là. Sortir, aller rencontrer les gens dans le repos. Alors le témoignage va toucher. Alors le témoignage aura du sens, parce que à quoi ça sert de parler aux gens de l'amour de Dieu alors que soi-même on est dans l'agitation? Je vous donnerai du repos. Un peu plus loin dans Matthieu, nous avons un deuxième don. Ah, ça c'est vraiment bienvenu. Matthieu 16, au verset 19. C'est l'épisode où Pierre, appelé aussi Simon, fils de Jonas, est en compagnie de Jésus. Verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, c'est un verset qu'il faut lire avec attention et prendre avec un peu des pincettes, parce que beaucoup d'interprétations ont été faites. Je pense que Jésus s'adressait à Pierre, mais pas exclusivement à Pierre. Je pense qu'il s'adressait à chacun d'entre nous. On le voit, si on va dans, un peu plus loin, dans Matthieu 18, il répète ces choses en parlant à vous, c'est-à-dire à l'ensemble des disciples, au verset, donc chapitre 18, au verset 18, « Je vous le dis, en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. » Et si l'on va dans Jean, je pense qu'on a une forme d'éclaircissement sur la nature exacte des mots. Jean 20, verset 23. Il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Nos paroles, les mots que nous disons, sont chargés de sens. Sont chargés spirituellement aussi. Lorsque nous bénissons, eh bien nous bénissons. Lorsque nous ne bénissons pas, il n'y a pas de bénédiction. Et parfois, nous ne disons rien, mais nous pensons des choses. Je pense que ces choses-là ne sont pas permises par le Seigneur, et il ne faut pas que cela arrive. Et je crois que on va dire que c'est comme ça que je le comprends. Le Seigneur, lorsqu'il a dit cela à Pierre, il a pensé à lui-même. Lorsqu'il était sur la croix, Jésus a dit, « Père, ne leur pardonne pas ce qu'ils viennent de faire. » Non, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsque Étienne se faisait lapider, il disait, ne leur impute pas ce péché. Si vous lisez l'apôtre Pierre, et on sait aussi qu'il est mort martyr, sa théorie c'était de dire, ne rendez pas le mal lorsqu'on vous fait du mal. Bénissez, au contraire. Et la doctrine de l'apôtre Paul, c'était bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Et je pense qu'il y a un lien entre ces paroles de Jésus. Lorsqu'il dit ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Je n'ose pas imaginer ce que ce serait produit si Jésus avait dit, « Père, ne leur pardonne pas ce péché. » Je n'ose pas imaginer ce qui se serait produit si Étienne avait dit, « Impute-leur ce péché. » Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé si, lorsqu'en Corée, des gens se faisaient enterrer vivants, des chrétiens, s'ils n'avaient pas prié pour le salut de ceux qui étaient en train de les couvrir de terre. Et on sait ensuite que un officier s'est converti, a donné sa vie au Seigneur, a été ensuite un pasteur actif qui a aussi connu la prison. Je n'ose pas imaginer ce qui se serait passé dans toutes les situations où les gens, alors qu'ils étaient en train d'être tués, massacrés par l'ennemi, s'ils n'avaient pas prié pour eux, qu'aurait fait Dieu? Est-ce que nous possédons les clés du royaume? Est-ce que nous possédons la possibilité en nous de dire au Père, Père, pardonne, pardonne, pardonne. Est-ce que nous retenons le péché des autres? Est-ce que nous nous octroyons le droit de dire, Père, je ne pardonne pas? Est-ce qu'on peut imaginer même que ce soit possible? Si Jésus l'avait fait, pour chacun d'entre nous ici, nous ne serions pas là. Nous ne serions pas là. Un autre don dans Luc. Chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Est-ce bien vrai? Est-ce que ça, c'est une histoire vraie? Disait Pierre ce matin. Je vous ai donné la puissance de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est formidable, non? C'est merveilleux. Mais est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit? Je me rappelle cette histoire que Patty Wolf nous racontait lorsqu'elle était dans la jungle. N'est-ce pas? Ils étaient là, invités, entre guillemets, dans une tribu, à parler de l'évangile, et avant de parler, eh bien, allez, on va manger ensemble. Et elle disait, je voyais cet homme en face de moi qui me regardait avec ses yeux noirs et qui ne me quittait pas des yeux. Ils ont pu annoncer l'évangile. Et cet homme, le sorcier en l'occurrence, vient les voir. Il leur dit, mais votre Dieu doit être vraiment puissant. Parce que ce que vous avez mangé aurait dû tuer un cheval. Ils n'avaient rien. Ils n'ont rien senti. Il y a beaucoup d'histoires comme cela. On a vu l'histoire aussi, c'est ce film qu'on a passé avec ce musulman qui avait été empoisonné sur l'ordre de son père. Il ne s'est rien passé. Alors, des fois, on nous dit, mais ne faut pas raconter ces histoires, parce que ça donne des idées. On va croire que c'est toujours comme ça. Et je suis désolé, c'est la parole de Dieu qui le dit. Et ça existe au quotidien. Alors, ne pas en parler, ce serait dommage. Dans psaume 91, verset 13, on lit « Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. » Ce n'est pas une nouveauté. David l'avait entendu aussi. Il le savait. L'apôtre Paul lui-même, vous en rappelez, a pris des broussailles pour mettre sur le feu. Il y avait un serpent. Et il ne s'est rien passé. Rien ne vous nuira. Rien ne vous nuira, ça ne veut pas dire que finalement vous ne mourrez pas, bien sûr, qu'on meurt un jour. Mais rien ne pourra vous nuire dans le sens où jamais personne ne pourra effacer votre nom là où il a été écrit dans le livre de vie. Rien ne vous nuira. Vous serez préservés en sécurité. Ça tombe bien. Dans Jean 4, verset 14, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On nous donne tous les jours beaucoup d'eau à boire. L'eau du monde ne peut pas désaltérer. Il y a l'eau du travail, tous les jours, qui ne parvient pas à satisfaire les gens. Il y a l'eau de la religion, qui est très amère. Il y a l'eau des bonnes œuvres, qui est un puits sans fond. Il y a l'eau de l'argent, qui n'est jamais assez abondante. Il y a l'eau du succès, qui coûte très cher en compromission. Il y a toutes sortes d'eau. Mais l'eau que nous donne le Seigneur Jésus est une eau qui est gratuite, qui est pure, qui est propre, qui est jaillissante, qui suffit pour nous. Mais en plus de l'eau, nous avons et nous obtenons la source. N'est-ce pas? Ce n'est pas que de l'eau qui nous est donnée. C'est la capacité à produire, la capacité à donner, la capacité à être. Qu'est-ce qu'on donne comme eau autour de nous? Est-ce que c'est de l'eau jaillissante, pure? Ou est-ce que c'est l'eau de Mara? L'eau amère. Lorsqu'on en boit, on meurt quelques instants après. Est-ce que nous avons reçu cette source qui donne la vie? Christ en nous, l'espérance de la gloire? Jésus, dans son entretien avec la Samaritaine, juste avant, il va voir la femme et lui dit, « Donne-moi à boire. » Il savait que ce n'était pas possible. C'était une impossibilité culturelle. Les Samaritains ne parlent pas aux Juifs. Quelle idée ça lui, n'est-ce pas, de demander à une Samaritaine de l'eau? Même lui parler, c'était trop. Donne-moi à boire. Mais Jésus a utilisé cette impossibilité culturelle pour mettre en évidence une autre impossibilité spirituelle. C'était que l'homme ne peut rien donner à Dieu. L'homme ne peut rien proposer à Dieu. L'homme ne peut pas se donner à Dieu. Cette femme était une prostituée. Et en lui demandant cela, il mettait en évidence l'impossibilité. Et Jésus, devant son étonnement, lui dit, « Si tu connaissais le don que je te donne. Et si tu connaissais qui te demande de l'eau, alors c'est toi-même qu'il y aurait demandé. Et à ça, la femme répond, mais Seigneur, elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien. Si on peut arrêter la phrase là. Seigneur, tu n'as rien. Et elle continue, pour puiser, c'est profond, c'est trop profond. Lorsque Satan est venu pour tenter Ève, il est venu avec quelque chose, avec des arguments. Jésus est venu sans argument. L'évangile, le salut, lorsqu'on le présente à quelqu'un et on s'en étonne, ben c'est rien. Ça apparaît comme rien. C'est du vent, c'est de l'air. Me sauver de quoi? J'ai besoin du salut, mais pourquoi faire? Je suis pas si mal. Je suis beaucoup mieux que mon voisin. Mais Daniel, tu n'as rien. Tu n'as rien à m'apporter. Et de toute façon, ce dont j'ai besoin, c'est beaucoup trop profond. C'est impossible à atteindre parce que tu n'as pas ce qu'il faut pour le chercher. Et Jésus ne se laisse pas désarmer. Est-ce que nous nous arrêtons à cet endroit-là? Jésus a des ressources. Je peux te donner de l'eau qui désaltère éternellement. Et là, elle s'est dit, ouh, j'ai touché le jackpot aujourd'hui. Je vais faire une affaire commerciale absolument fantastique. Je vais avoir de l'eau en abondance pour tout le temps. Je vais pouvoir faire mon commerce avec ça. On reçoit parfois le salut comme ça. Où l'évangile et le salut est parfois annoncé comme cela. Donc, tournez-vous vers le Seigneur, vous allez faire une affaire. Je me trompe. Ou est-ce qu'on a déjà entendu ce genre de choses-là? Jésus lui dit, va, appelle ton mari. Elle lui avoue qu'elle a plusieurs maris. Et je pense que là, le cœur du Seigneur a dû se tordre dans sa poitrine parce qu'il se rappelle la séparation qui a eu lieu lors du péché originel. Il se rappelle qu'il y a eu là une séparation et que l'épouse était partie. Et cette femme a eu plusieurs maris. Et que cela représente cette forme de vie adultère du monde, alors qu'il y a un époux qui l'attend. J'ai eu plusieurs maris, il lui dit, tu fais bien de le dire. Aucun de ces maris n'a réussi à calmer ta soif. Aucune de ces théories n'a réussi à calmer ta soif. Aucune de ces religions n'a réussi à calmer ta soif. Et aujourd'hui, tu te retrouves en face de celui qui veut être ton époux, vraiment. Dieu veut rétablir nos fonctions spirituelles. Il veut nous donner de l'eau qui désaltère vraiment. Il veut nous donner de l'eau pour que nous puissions en donner autour de nous. Il veut nous donner de l'eau pour la vie éternelle. Avec l'eau, le Seigneur veut nous donner du pain aussi. On lit ça au chapitre 6 de Jean, au verset 51. Verset 49, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Jésus se donne. Jésus donne sa chair. Le pain vivant, c'est lui. La manne, c'était du pain occasionnel, jour après jour, toujours le même goût. Pas de différence. C'était pénible à la langue. Jésus dit, je suis le pain vivant. Étant vivant, il est vivifiant. Il fait cadeau de sa mort pour que l'homme pécheur puisse entrer par la foi dans une relation intime avec lui. Est-ce que nous sommes du pain pour les autres ? Est-ce que je peux venir vous croquer sans m'empoisonner? C'est rigolo. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Est-ce qu'en faisant ça, je vais me prendre une gifle? Ou est-ce que je vais sentir que vous êtes du pain pour moi? Est-ce que lorsque je ne vais pas bien, je peux venir vous voir, vous parler et être accueilli? Ou est-ce que vous allez me dire, bon, écoute, c'est pas l'heure, j'ai pas le temps. Reviens une autre fois. Est-ce que je peux venir vous croquer? Pas tous les jours, mais un peu de temps en temps. Si vous avez reçu le pain vivant vous-même, alors vous êtes vivifiant pour votre prochain, n'est-ce pas? C'est notre expérience quotidienne. Jean 10, verset 28, un autre don. Je commence au 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père me les a donnés. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. on ne va pas après Jésus parce qu'on souhaite obtenir la vie éternelle. En fait, on ne peut même pas suivre Jésus. Beaucoup ont été autour de Jésus et l'ont suivi dans son périple. Et Jésus disait, il est dit qu'il ne se fiait point à eux parce qu'il savait ce qu'ils avaient dans leur cœur. Et l'homme, par lui-même, ne peut pas suivre Jésus s'il n'a pas fait l'objet d'une entente entre le Père et le Fils. Si nous n'avons pas fait l'objet d'une transaction entre le Père et le Fils, il n'y a pas de possibilité de suivre Jésus. Verset 29, « Mon Père me les a donnés. » Ce que Dieu nous donne comme vie éternelle, ce n'est pas une vie éternelle, il n'a pas des casiers avec quantité de vie éternelle pour chacun. Jésus donne sa vie. Je donne ma vie à mes brebis. C'est la vie éternelle. C'est pas les vies éternelles qui sont empilées, c'est la vie éternelle, celle de Christ. Je donne ma vie pour mes brebis. Jean 6, 40. La volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. J'ai vu le Fils. Mais ce n'est pas tout. Jean 17, verset 39. Ça n'existe pas. À un autre endroit, il est écrit, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Oui, 17, oui, mais je n'ai pas le verset. « Toi, le seul vrai Dieu. » C'est pas grave. Verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. » N'est-ce pas la vie éternelle? Ce n'est pas que la connaissance livresque. Ce n'est pas que la connaissance intellectuelle de Jésus-Christ. La vie éternelle qui nous est donnée, c'est celle où nous voyons Christ. C'est celle où nous connaissons le Père. C'est un nouveau statut qui nous est offert. Une nouvelle position spirituelle. Là où nous appartenons au royaume des ténèbres, là où nous étions esclaves du malin, nous sommes placés au rang de fils. Et nous avons reçu en héritage la vie de Christ. Est-ce que nous voyons le Fils? La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Juste méditer, frères et sœurs, sur ce terme, connaître Dieu. Ça ne devrait pas nous laisser tranquilles pendant toute notre vie. Notre recherche de Dieu ne devrait jamais s'arrêter. Connaître Dieu. Connaître Dieu. Entrer dans ses profondeurs. Recevoir par le Saint-Esprit les choses qu'il veut nous enseigner, les choses qu'il veut nous voir faire. Je crains que nous vivions trop en deçà de ces choses. Personne ne les ravira de ma main. Est-ce que vous croyez que c'est possible? C'est la question de Pierre ce matin. Est-ce que ton histoire est vraie? C'était la question de la femme samaritaine à Jésus. Est-ce que ton histoire est vraie? Parce que si c'est pas vrai, tout ce à quoi j'ai cru jusqu'à présent s'effondre. Tu as eu plusieurs, Marie, qui t'ont raconté tous des histoires qui étaient fausses. Quelle est notre intimité avec Jésus-Christ aujourd'hui? Est-ce que nous avons une relation d'amour avec Jésus? Est-ce que nous pouvons lui dire, Seigneur Jésus, je t'aime? Que ce soit en privé ou lorsque nous prions publiquement. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur Jésus, mais je t'aime? Avec la vérité dans notre cœur. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur Jésus, tu es tout pour moi? Tu as comblé ma vie. Tout le reste m'importe peu finalement. Je suis tombé amoureux de toi. Est-ce que nous entendons sa voix qui est paisible? Ou est-ce que notre état, c'est d'être stressé sans arrêt, d'avoir peur de ceci, de cela? Est-ce qu'il y a le repos qui est venu? Est-ce qu'il y a la paix qui est venue? Si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Dans Jean 14, nous avons un autre don. Verset 27. Non, je crois que je me suis trompé. Non, c'est ça. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il faut savoir que peu de temps auparavant, au verset 21 du chapitre 13, il est dit « Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Et un peu plus tard, il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. On comprend ce que c'est que la paix alors. C'est quelque chose qui dépasse les inquiétudes terrestres. Jésus savait que des moments sombres allaient intervenir pour lui. Il savait que des choses difficiles allaient arriver. Et plutôt que de dire, je vous laisse ma panique, je vous donne ma panique, il dit, je vous laisse ma paix. Pas comme le monde vous la donne. Je vous donne ma paix. Et nous savons peut-être que des jours sombres arrivent aussi. Nous savons peut-être que dans quelque temps, lorsque nous dirons que Jésus est le seul chemin, on nous mettra en prison parce que nous sommes discriminatoires pour les autres religions. Lorsque la nuit sera venue, qu'est-ce que nous allons donner? La paix? La panique? La peur? Ce qui est merveilleux et qui me prouve que ce que Jésus dit est vrai, c'est que l'apôtre Paul a commencé toutes ses épîtres de cette façon-là. Grâce et paix vous soient données. Et lorsqu'il était en prison, il disait pareil. Grâce et paix vous soient données. Les hommes s'agitent, se démènent pour essayer d'apporter la paix. Ils essayent de trouver toutes sortes de solutions. Aujourd'hui, on n'a pas la paix, on a la crise. Alors, il nous faut beaucoup d'argent. Et je vous ai déjà dit qu'au Parlement américain, il y a quelques semaines, il était dit que quand ils ont voté leur premier plan de 700 milliards, quand ça a été refusé la première fois, la deuxième fois, un homme s'est levé, il a dit « Si cette fois-ci le plan ne passe pas, alors il faudra prier Dieu. » Malheureusement, c'est passé. Il préférait que ça passe plutôt que de prier Dieu, n'est-ce pas? Voilà où en est le monde aujourd'hui. La paix est dans l'argent. Mais nous, chrétiens, si nous entreprenons des projets qui ne sont pas soumis à la parole de Dieu, qui ne sont pas soumis à l'avis du Père, eh bien nos actions ne dépasseront pas celles du monde. Elles n'auront pas plus d'effet, ni dans la qualité, ni dans la durée. Jésus, et pour cela aussi, il est l'exemple parfait, ne faisait rien sans l'aval du Père. Notre rôle, c'est d'agir, de nous comporter de la même façon. Je vais lire un dernier verset dans Colossiens, chapitre 1. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. Par le sang de la croix. Est-ce que nous avons pris conscience des dons merveilleux, des cadeaux merveilleux que nous a donné Jésus-Christ? Est-ce que nous prenons à cœur ces choses-là comme des trésors précieux? Je vous invite à serrer les paroles qui ont été dites dans votre cœur, de prendre conscience des présents qui nous ont été faits par le Seigneur Jésus lui-même, à chacun d'entre nous. De passer du temps à glorifier le Seigneur et à lui dire à quel point vous l'aimez. La relation avec Dieu, c'est pas de venir à l'église. C'est pas d'aller aux réunions. C'est pas dire des paroles avec sa bouche. Qu'est-ce que c'est? Si on en est là, on peut un jour se poser la question, mais est-ce que ton histoire est vraie? Je vous invite à recevoir aujourd'hui même. Peut-être qu'une chose dans ce qui a été dit vous a touché vraiment. Et vous en avez besoin aujourd'hui. Quelque chose qui vous avait échappé jusque-là. Alors je propose que les 3-4 minutes qui restent jusqu'à midi, chacun puisse prendre conscience de cela et demander, Seigneur Jésus, je n'ai pas reçu cela ou je ne l'ai pas vu. Seigneur, montre-le-moi. Voilà, qu'on puisse passer les 2-3 minutes qui restent dans la prière.